paresseux, les rois fainéants ? On a mis sous le nez studieux de génération d'écoliers l'illustration suivante. Des bœufs tirent des charrettes, vaguement tapissées d'étoffes précieuses, où se trouve allongé un roi gras et barbu, accompagné de sa suite. Ce roi illustre l'image même de la fainéantise la plus obscène, la plus indigne pour qui dirige un peuple. Et voilà, précise en général la légende, qui étaient ceux qu'on appelle les rois fainéants, des rois mérovingiens médiocres et inutiles. Faux. Jamais les rois fainéants n'ont existé. Poursuivant leur projet de s'installer au pouvoir, les maires du palais ont pris le soin d'éviter aux jeunes rois mérovingiens le contact avec tous ceux qui pourraient leur apprendre leur métier. Ils les ont relégués dans quelque abbaye, dans quelque monastère, d'où ils ont été sortis pour maintenir une image de la royauté à laquelle tenait le peuple. Mais de pouvoir, point, puisqu'il leur était confisqué. Ces rois étaient la plupart du temps des enfants ou des adolescents. Ils se déplaçaient de palais en palais, selon la coutume de l'époque. Et pour se déplacer, il n'y avait pas de limousine, mais des chars à bœufs. Alors, évidemment, on a pu voir le roi, comme n'importe qui d'autre, emprunter ce moyen de locomotion. De là à le déclarer fainéant parce qu'il se fait promener en char, il y a un pas que n'hésite pas à franchir Eginhard, le biographe de Charlemagne, qui voulait ainsi valoriser son maître bien-aimé et justifier par tous les moyens le remplacement des Mérovingiens par les Carolingiens.
Pépin II avait épousé Plectrude, qui, à la mort de son mari en 715, affirme qu'elle est assez grande et assez forte pour gouverner seule la Neustrie et l'Austrasie au nom de ses petits-enfants, ses enfants mâles étant morts. Mais Pépin II avait une concubine, la belle Alphaïde, et de leur union était né un enfant qu'ils avaient nommé d'un commun accord Charles. L'avez-vous reconnu ? C'est Charles Martel. Plectrude, se méfiant de Charles, l'avait fait emprisonner. En cette même année 715, Charles s'évade et rejoint l'Austrasie, loin de Plectrude, qui ne la domine guère. Comment était Charles ? La chronique du temps le décrit. Beau, valeureux et propre à la guerre. Bref, le gendre idéal. Si propre à la guerre qu'il s'y met tout de suite. Il attaque les Neustriens et les vint du premier coup. En 718, il prend le titre de maire de Neustrie. Le voilà donc, maître d'Austrasie et de Neustrie, mais, prudent, il prend la précaution de sortir d'une abbaye un roi, Clotaire IV, fils de Thierry III, souverain de Neustrie. Ainsi, personne ne peut l'accuser d'usurpation de trône, mais tout le monde sait bien qu'il a pris le pouvoir. Charles acquérera en quelques années le surnom de Martel, tant ses interventions sont soudaines et assomment l'ennemi, comme un martel, c'est-à-dire un marteau. 6 mois après avoir été intronisé, Clotaire IV meurt. Qu'importe, Charles Martel le remplace par son frère Chilpéric II et continue tranquillement de gouverner. Mais voici un nouveau péril en 720, et pas des moindres. Les Arabes ont envahi la Septimanie, le Languedoc. Ils ont pris Narbonne. L'année suivante, en 721, ils s'implantent dans la région de Toulouse. 721, c'est aussi l'année de la mort de Chilpéric II. La royauté semble atteinte d'une surmortalité inquiétante. Il faut d'urgence sortir un nouveau roi de quelque abbaye. On s'en va au monastère de Chelles et on trouve un Thierry IV qui fait l'affaire. Et les Arabes ? En 724, ils s'emparent de Carcassonne. En 725, ils atteignent Autun. En 732, à Pampelune, en Espagne, ils forment une véritable armée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes qui traversent les Pyrénées. Ils atteignent l'Aquitaine, dont le roi Eudes est vaincu. Bordeaux tombe entre leurs mains. Tout y est pillé, incendié, les habitants sont massacrés. Les musulmans foncent alors vers Poitiers, y détruisent une basilique. Ils se préparent à gagner Tours afin d'y détruire le sanctuaire de Saint-Martin et surtout de s'emparer du trésor qui y est gardé.